Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous, mes frères et sœurs. Je voudrais que nous ouvrions le Saint-Livre dans le psaume 73. Dans le psaume 73, nous voyons un homme qui connaît Dieu, qui sert Dieu, et qui pourtant est passé par une épreuve difficile. Asaph avait été choisi par David pour être le responsable de la chorale de Jérusalem. Quand vous voyez toutes les fois où il est parlé d'Asaph, il est parti de pas grand-chose. Il jouait des cymbales dans la chorale. Il faisait pas grand-chose, mais ça suffit pour que David remarque la grâce qui reposait sur cet homme. Il a été même utilisé pour écrire des psaumes, vous voyez, dans le canon des Écritures, il a terminé comme prophète. Mais regardez dans le psaume 73, la tempête, pour reprendre le thème des chants qu'il a traversé. Lorsque nos yeux se détournent de Dieu, il ne faut pas longtemps pour se trouver dans l'aigreur. Psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leur entraille, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence? Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Quelle expérience, quelle grâce que Dieu ait mis cela dans le canon des Écritures. Si c'est écrit dans les Écritures, c'est que nous en avons besoin. Tout ce qui est écrit est utile. Nous avons besoin de comprendre l'expérience de cet homme, de ce serviteur qui est devenu un homme de Dieu, qui est devenu un prophète, mais qui est passé par un moment difficile alors qu'il servait Dieu tous les jours dans la maison de Dieu. Cet homme servait Dieu tous les jours. Et il va dire à un moment donné, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. On pourrait dire, attends, mais s'il y en a bien un qui s'approchait de lui, de Dieu, c'est bien lui. Comme quoi on peut servir Dieu et ne pas avoir de communion avec lui. L'apôtre Paul parle dans, on pourrait le lire ce texte parce que quand même il est important, dans 2 Timothée au chapitre 3, Paul parle d'une catégorie de chrétiens. Une catégorie de chrétiens qui sont en danger. Ils sont en danger pourquoi ? Eh bien regardez bien avec moi. 2 Timothée chapitre 3, il parle d'une catégorie d'hommes, de serviteurs, qui servent dans un mauvais état d'esprit en plus. On va lire ce qui nous intéresse. C'est quand même important, parce que beaucoup de chrétiens lisent la Bible pour rien. Et Paul parle de cette catégorie, 2 Timothée chapitre 3, verset 7. Regardez bien, il parle d'hommes qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. C'est terrible, en plus on le voit plusieurs fois, il s'adresse à ceux qui reçoivent la grâce de Dieu en vain, il parle dans Hébreu de ceux pour qui la parole qui a été annoncée ne leur servit à rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Il y a plusieurs textes qui nous montrent qu'on peut aller à l'église, lire la Bible, apprendre toujours et n'arriver jamais à la connaissance de la vérité parce qu'en vérité, comme c'est écrit au verset 8, on s'oppose à la vérité. Entendre la vérité, entre guillemets, aimer la vérité, mais en fin de compte, s'opposer à la vérité. Un homme qui aime Dieu, dans le psaume 73, on voit un homme qui aime Dieu. Il aime Dieu, c'est sûr. Il a été choisi par Dieu, par David. Il a été choisi, mais je le répète, il s'est épuisé. Vous savez, la fatigue, il faut faire attention à la fatigue. La fatigue à tous les niveaux. Mais même la fatigue physique peut être un piège. Et il y en a un qui se charge de tout faire pour nous épuiser. N'oubliez pas que le diable est spécialisé dans toutes les ruses. La Bible parle des ruses de l'ennemi, des méthodes, de ses stratégies, tout ça. Le diable a des millénaires d'expérience pour savoir comment faire chuter quelqu'un. Et ne nous croyons pas meilleurs que ce que nous sommes. Nous devons travailler à ne pas nous épuiser. Dieu nous parle du repos, mais il ne parle pas que du repos de l'âme, il parle aussi du repos physique. Savoir se reposer. Il était tous les jours dans la maison du Seigneur, cet homme. Alors comment on peut passer justement de l'épuisement à la bénédiction ? Parce que quand même, on est là aussi pour être béni. Oui ou non ? Est-ce que vous voulez être béni ? Ben, c'est clair. Cet homme qui était aigri, plein d'amertume, et qui s'est mis à chercher Dieu. Il s'est mis à chercher Dieu. Il connaissait la parole. Il a été choisi par Dieu pour être l'homme qu'il est devenu. Il connaissait la parole. Et c'est vrai que dans la parole, vous lisez que si vous obéissez, vous êtes béni. Si vous obéissez, eh bien, vous serez vraiment béni. C'est écrit ou c'est pas écrit? Et lui, il a commencé à regarder les méchants. Il a commencé à regarder les méchants, il s'est dit, mais attends, mais vous avez lu avec moi le psaume. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Il y a des méchants qui prospèrent. Oui ou non? Il y a des méchants qui sont bénis. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Et il a commencé à calculer, etc. Et cela l'a éloigné de Dieu. Tout en servant Dieu. D'ailleurs, vous voyez, il commence le verset premier. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quoi? Il connaissait les cantiques. Le premier danger d'un chrétien, c'est qu'on peut servir Dieu et ne pas s'approcher de Dieu. Ça, c'est un des problèmes. C'est écrit, prends garde à ton pied. Vous connaissez ce verset? Quand tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. C'est un verset, moi, qui m'a beaucoup interpellé, comme quoi on peut servir Dieu et ne pas lui obéir. C'est pour cela qu'il nous est demandé de nous approcher du trône de la grâce. Mais nous pourrions nous poser des questions quand même. Est-ce que c'est bien de poser des questions. Comment, par exemple, qualifieriez-vous votre communion avec Dieu? Je sais pas, on n'a pas des petites fiches, mais il y a des questions quand même qui sont saines, sérieuses, intelligentes. Comment qualifierions-nous notre communion avec Dieu? Comment faisons-nous notre culte? Comment le faisons-nous? Comment venons-nous à l'église? Etc. Il y a des questions qui nous permettent quand même de faire le point. Vous voyez, on aurait pu dire à Asaph, mais comment tu sers Dieu, puisque tous les jours, David t'a confié la responsabilité. Comment tu sers Dieu? Bon, mais là, il explique. Et moi, je voudrais ce soir vous rappeler que Dieu nous appelle à nous approcher du trône de la grâce. Quelle grâce de comprendre que Dieu nous appelle tous à nous approcher du trône de la grâce, quel que soit l'état dans lequel nous sommes. Car il n'y a rien de plus terrible qu'un homme soit obligé de dire, mais un homme comme ça, j'étais stupide, j'étais à ton égard comme les bêtes. David en parle dans le psaume 32, où pendant un an il a fait du cinéma aussi, parce que ça rassure, je ne sais pas si ça vous rassure, mais quand on voit des hommes comme ça qui ont perdu la communion avec Dieu, David qui a perdu la communion avec Dieu pendant un an, d'ailleurs il a dit, j'étais à ton égard comme les bêtes, David il dit, mais comment il dit exactement dans le psaume 32, on peut le lire. Dans le psaume 32, c'est très très important parce qu'il résume ce qu'il s'est passé dans son cœur, il le dit. C'est une exhortation, parce que David pendant un an il a fait la comédie. Est-ce que ça peut arriver de faire la comédie? Ben ouais, je fais la comédie, je vais à l'église, et David a fait la comédie. Un an, ça a duré. Il a fait la comédie, truc grave. Et regardez ce qu'il dit dans le psaume 32, il dit la même chose qu'Asaph. Ne soyez pas, verset 9, comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein ou avec un mors dont on les pare, afin, pourquoi ? Afin qu'il ne s'approche pas de toi. Le diable, moi vous savez, je ne suis pas du genre à diaboliser. C'est pas mon. Il y a des pasteurs, ils parlent toujours du diable. Et ce n'est pas un jugement, mais je sais que Dieu nous a fait responsables. Et ces textes, ces deux textes que nous venons de lire, nous montrent que l'ennemi fera tout pour que nous soyons comme des animaux. La Bible parle de l'homme animal. Et à quoi cela nous fait-il penser dans ces deux textes, des hommes, des femmes qui n'arrivent pas, qui ne peuvent pas s'approcher de Dieu? C'est un vrai drame. Et nous devrions nous poser certaines questions. Est-ce que ma vie spirituelle sert à quelque chose? Alors, puisqu'il nous est dit, vous le connaissez ce texte dans Hébreux 4, 12, 16, approchez-vous. On va le lire parce que c'est quand même une invitation qui ce soir peut aider quelqu'un à retrouver lui aussi une véritable communion avec Dieu. Car quand même, le but, il est là. Le but, c'est pas de servir tous les jours Dieu dans le temple. Bien sûr que c'est le but. Mais on peut le faire sans être en communion avec Dieu. Et l'apôtre, on ne sait pas si c'est l'apôtre Paul, mais l'auteur de l'épître aux Hébreux a donné cette invitation qui revient plusieurs fois dans la Bible de plusieurs formes différentes. 4, 16, approchons-nous avec assurance. Mes frères et sœurs, il faut écouter ces choses. Je ne sais pas comment vous vous approchez de Dieu, si c'est un rafraîchissement ou si c'est un combat. Je sais que c'est compliqué. Mais s'il y a bien une chose qu'il faut faire, c'est s'approcher de Dieu avec assurance. Amen. Du trône de la grâce, pour trois choses dont j'ai souvent évoqué. Trois choses, c'est obtenir miséricorde, de trouver grâce et d'être secouru dans nos besoins. Comment d'abord nous devons nous approcher? Parce que c'est une chose. Pourquoi s'approcher de Dieu? C'est important. Qu'est-ce que je dois obtenir? Bien sûr, vous allez me dire, mais moi j'ai besoin de ça. D'accord. Mais il y a des choses qui sont en priorité. Asaph a dû l'expérimenter. C'est pour ça que j'ai pris son témoignage. Comment s'approcher? Parce que il chantait dans le temple. Il chantait, mais il ne s'approchait pas de Dieu. Il s'en éloignait. Parce que quand on commence à envier les pécheurs, laissez-moi vous dire qu'il doit y avoir belle lurette qu'on a commencé à s'éloigner de Dieu. Quand on commence à envier les gens qui ont de l'argent ou qui ont réussi dans la vie, Laissez-moi vous dire, c'est sûr, ce que je vous dis, c'est biblique. Et Asaph, insidieusement, pris par certaines ruses ou mauvaises interprétations de textes bibliques sûrement, il s'est fait piéger. C'est pour cela qu'il y a bien quelque chose d'au-delà de la réflexion. Vous avez vu quand il dit, mais quand j'ai commencé à réfléchir là-dessus, parce qu'on réfléchit quand ça va pas. Mais c'est pas parce qu'on réfléchit que ça va s'arranger. D'ailleurs, vous avez lu qu'est-ce qu'il dit? Quand j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce qu'il ajoute? La difficulté fut grande. Ça veut dire que plus il réfléchissait, plus le problème s'aggravait. C'est une chose de réfléchir, et la Bible nous enseigne à la réflexion. Dieu nous a donné un cerveau, c'est très très important de réfléchir par rapport au bon sens, à l'intelligence, à plein de situations. C'est ça qui est merveilleux, c'est que Dieu nous a quand même donné un cerveau. Donc la première chose que nous devons comprendre avec notre petit cerveau, c'est qu'il y a une façon de s'approcher de Dieu. Je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas ce que vous voulez faire. En tous les cas, Dieu voudrait que vous sachiez certaines choses et que vous fassiez certaines choses. Mais s'il y a une chose que nous devrions comprendre, toujours, toujours, c'est qu'il faut s'approcher avec assurance, avec confiance, avec franchise, dira certaines versions. C'est pas toujours facile de s'approcher de Dieu, oui ou non? Des fois, c'est très 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 facile, des fois c'est très compliqué, oui ou non? Si vous deviez sur une page définir la façon dont vous devez vous approcher de Dieu, je suis sûr qu'on serait étonné de voir la quantité de luttes, de combats ou de situations qui sont là dans notre cœur lorsque nous devons nous approcher de Dieu. Mais qu'est-ce que ce texte prouve? Parce qu'il faut comprendre la parole. Vous savez quand Étienne, pas Étienne, hein, Philippe, dit à l'eunuque éthiopien qui était pourtant un ministre, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que cette question, Dieu pourrait la poser dans toutes les églises du monde? Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Est-ce que tu as compris ce que tu as lu? Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que cette question, Dieu pourrait nous la poser de temps en temps? Ben, je pense. Est-ce que tu comprends, Hébreux 4, 16, est-ce que tu comprends que Dieu te donne la preuve par ce texte qui veut te bénir? Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Parce qu'on peut dire, oui, approcher avec assurance, mais tu parles, moi, m'approcher avec assurance, avec le mois que je viens de passer. Mais c'est la preuve qu'on n'a rien compris. Dieu veut nous bénir. Amen. Dieu veut nous bénir, et le diable, lui, il veut que nous vivions dans le doute. On l'a chanté. Jonathan nous l'a rappelé au travers des chants. Là aussi, il aurait pu nous poser la question, est-ce que vous avez compris le thème des chants? Est-ce que vous avez compris que Dieu ne voulait pas que nous vivions dans le doute? Parce que c'est une chose de s'approcher, mais ça n'est une autre de s'approcher, de commencer à douter. On peut s'approcher de Dieu, parce qu'on nous le demande, parce qu'on sait qu'il faut le faire, mais de suite, clac, se mettre à douter, comme cela nous était rappelé dans cette fameuse histoire de la barque. On s'approche, oh mais Seigneur, est-ce que tu m'entends? Vous savez, il ne faut pas longtemps. Combien de temps il faut pour douter? Vous avez vu la Bible? Paf. La Bible commence, paf, Dieu a-t-il réellement dit? Ça part de là. Et il y a des gens, ils ouvrent le premier chapitre, premier verset, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Il y a des gens, ils doutent, dès qu'ils ouvrent la Bible, premier chapitre, premier verset. Vous comprenez bien que ça ne va pas aller loin, ça. Dieu veut bénir, et le doute, c'est vraiment quelque chose de terrible. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui doute, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le doute fait des ravages dans les églises, mais dans les cœurs. Dans les cœurs des chrétiens. On parle, nous on dit, oui, les pécheurs, ils doutent pas, ils sont incrédules. Le doute, il y a une grande différence entre le doute et l'incrédulité, c'est pas le sujet de la prédication de ce soir. Mais la Bible nous demande de ne pas douter. Une communion avec Dieu peut être annulée de suite, dès qu'il y a le doute. Et quand le diable réussit à insérer le doute, il a à moitié gagné, croyez-moi. On va le voir si on a le temps. Je dois venir avec assurance. Ce soir, nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous avons prié, nous avons servi le Seigneur dans la prière. Nous avons prié pour que le Seigneur nous parle. Nous avons préparé nos cœurs par des chants. Et nous voyons bien qu'il y a des combats, il y a des luttes. Mais je m'approche avec assurance. Seigneur, tu veux me bénir. Olivier le rappelait, Monsieur Catéco le rappelait dans leur prière. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et nous devrions avoir cette grâce de dire, Seigneur, je n'ai pas passé une bonne semaine. Mais justement, ce n'est pas parce que j'ai passé une bonne semaine que je peux m'approcher de toi. Je m'approche de toi avec assurance parce que tu m'accueilles comme je suis. Mes frères et sœurs, nous devons régler le problème du doute. Celui qui doute, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Le doute, il faut le régler. Vous rappelez cet homme dans la Bible il a dit à Jésus, c'était bien comme il a dit, « Je doute, mais viens au secours de mon incrédulité. » Est-ce que Dieu l'a béni? Ben ouais. Cette honnêteté, approchez-vous avec assurance, ça doit générer de l'honnêteté. Je doute, oui, je doute. Viens à mon secours. Et Dieu l'a béni. Cette honnêteté, Seigneur, je viens, je m'approche de toi, tu me demandes de m'approcher de toi. Si vous voulez qu'on prenne tous les textes, on n'aurait pas le temps. Mais on pourrait le faire, ça serait certainement utile. Où il nous est demandé de nous approcher de Dieu, pas de chercher la bénédiction, de nous approcher de Dieu. Et Dieu, il lit dans nos cœurs. Il voit la façon dont on s'approche de lui. Il voit s'il y a de la confusion. Et le diable aussi, il le sait. Il y voit moins clair que le Seigneur, bien sûr, il voit pas tout ce qui se passe dans notre cœur, mais quand même, il sait insuffler le doute dans notre cœur. C'est écrit qu'un tel homme ne s'imagine pas, c'est un homme irrésolu. Il est l'homme, les flots de la mer agités par le vent. Vous avez vu les vagues, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Bon, mes frères et sœurs, je crois que nous avons besoin et nous avons envie de rendre un bon témoignage. Oui ou non? Vous avez envie de rendre un bon témoignage? Est-ce que c'est important pour vous? Ou est-ce que vous dites, moi, ce que les autres pensent, j'en ai rien à faire? Moi, je crois que nous devons veiller à rendre un bon témoignage. Et que la conscience des autres, c'est aussi important que notre propre conscience. C'est écrit, je vous assure que c'est vrai. Ne doutez pas quand Dieu vous fait une invitation, ou quand Dieu fait une promesse, ou quand Dieu vous donne un commandement. Même un commandement. Oui, je crois, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Je ne veux pas que le problème du doute m'empoisonne toute ma vie. Vous savez, moi je suis pasteur depuis 36 ans. Et vous ne vous imaginez pas le nombre d'entretiens que j'ai eu. Et je me rends compte que le gros problème des chrétiens, parfois même qu'un 30 ans ou 40 ans de conversion, c'est toujours cette affaire du doute. Jonathan nous le rappelait dans les cantiques, quand il a dit à Pierre, « Pourquoi as-tu douté ?» Bon, pourtant nous là, on y verrait quand même quelques circonstances atténuantes, oui ou non hein? Déjà, moi, vous auriez pensé, vous, à dire, « Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi ?» Sérieusement, vous connaissez quand même. Vous auriez pensé à dire au Seigneur, « Si c'est toi, ordonne... » Moi, franchement, je n'aurais jamais pensé à un truc pareil. Mais bon, c'était l'apôtre Pierre, chacun a sa personnalité, son caractère. Dieu a permis ça, je ne sais pas comment ça s'est passé. En tous les cas, le Seigneur Jésus n'a pas été pris au dépourvu. Et bien Jésus lui dit, pourquoi as-tu douté? Mais moi, je pense que c'est bien ces histoires. Mes frères et sœurs, comme l'a dit Jonathan, ne doutez pas. Si le Seigneur vous a demandé quelque chose, il vous accompagnera. Il pourvoira, il vous gardera le temps qu'il a besoin de vous sur cette terre. Oui, le doute fait beaucoup de mal. Et vous savez, pour passer du doute au découragement, il ne faut pas longtemps. Il ne faut pas longtemps, quand quelqu'un doute, pour qu'il passe à la deuxième étape, qui est le découragement. Et vous le savez tous très bien. Et il ne faut pas beaucoup de temps pour passer du découragement à la défaite. Les choses s'enchaînent, croyez-moi, vite, vite, vite. Et il y en a un qui le sait. Oui, du doute au découragement et du découragement à la défaite. Il faut être comme un enfant. Si Dieu vous demande de vous approcher de lui avec assurance, c'est que vous pouvez le faire. Vous entendez, mes frères et sœurs? Voilà, si Dieu te dit, approche-toi avec assurance, eh bien, je m'approche avec assurance. Quand Dieu demande quelque chose, c'est qu'on peut le faire. Alléluia. C'est très important de le comprendre. Oui, nous devons nous approcher du Seigneur parce qu'il nous le demande, parce qu'il veut nous bénir. Il voulait bénir Asaph. Et il y en a un autre, bien sûr, qui voulait détruire son ministère. Parce qu'il y a bien, s'il y a bien quelque chose que le diable veut, c'est détruire notre service. La première chose pour laquelle il faut s'approcher de Dieu, c'est pour obtenir miséricorde. Beaucoup de gens se sont approchés de Dieu. Des millions de gens se sont approchés de Dieu. Et ils n'ont jamais obtenu miséricorde. Ils ont obtenu la guérison, ils ont obtenu un boulot, ils ont obtenu une faveur, Dieu a pourvu, mais ils n'ont pas obtenu miséricorde. Béni soit Dieu pour toutes les faveurs qu'il vous accordera. Mais la première chose que Dieu veut que nous obtenions, c'est sa miséricorde. Combien de gens ont été guéris ce matin en préparant ce culte? Je pensais à une voisine qui était venue à l'imposition des mains il y a 36 ans. J'ai commencé mon ministère. C'est une femme qui avait le cancer, qui était malade, qui avait plein de problèmes. Elle est venue à l'imposition des mains, elle s'est mise à pleurer et le Seigneur l'a guérie. Moi, je croyais qu'elle s'était convertie. Je ne l'ai plus revue un mois après, je la croise dans l'immeuble où j'habitais, à mât de l'immeuble. Ah, on ne s'est pas reconnu sur le coup, puis au bout de 30 secondes, elle a dit, mais si, je vous reconnais, mais moi aussi, vous étiez à la réunion, je suis pasteur. Oui, je suis venu à l'imposition des mains, Dieu m'a guéri. Et j'ai dit, vous n'êtes pas revenu, mais moi, je ne veux pas de Dieu. Et j'ai compris vraiment qu'on pouvait obtenir la bénédiction et ne jamais obtenir miséricorde. Et il y a des millions de gens comme ça. Ils ont obtenu une faveur, mais ils n'ont pas obtenu miséricorde. Ils ont obtenu une faveur, mais ils ne savent pas ce que c'est le pardon. Parce que dans la miséricorde, vous pouvez le calculer comme vous voulez, c'est qu'il y a le pardon, la paix et l'amour du Seigneur qui viennent vous envahir. Vous rappelez le paralytique? Il a d'abord obtenu miséricorde. Vous rappelez quand il y a eu ce gros débat, qui est-il pour pardonner les péchés? Et Jésus a d'abord pardonné ses péchés, avant de le guérir. Il a d'abord obtenu miséricorde. Pourtant, il était malade, il était paralysé. Il avait d'abord besoin du pardon de ses péchés. S'il y a une chose dont on a besoin, c'est d'abord de pardon. Parce qu'avec toutes les casseroles qu'on se traîne, de temps en temps, c'est bien de se souvenir que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Vous le croyez, ça? Que le Seigneur ne se lasse pas de pardonner. Alors, je ne parle pas pour les gens qui vivent volontairement dans le péché, qui font du cinéma avec Dieu. Mais je parle pour les chrétiens vrais, sincères, qui de temps en temps, et bien justement, commettent un impair, un péché, une faiblesse, une maladresse, qu'importe. Seigneur, je sais que tu ne te lasses pas de pardonner. Oui, je peux m'approcher de toi avec assurance. J'ai besoin de ta compassion. J'ai besoin de ton amour. Déjà, entre nous, on a besoin d'affection. Oui ou non? C'est pas important, l'affection fraternelle, de savoir que vous êtes aimés, que vous vous aimez les uns les autres. Obtenir miséricorde, voilà ce que nous avons besoin. Il nous invite, approchez-vous, demain matin, prenez, je sais pas, peut-être, oh, je suis léger dans cette invitation. Ah, il faut que je prenne, je sais pas, une petite demi-heure, je sais pas, c'est pas à moi de vous dire, voilà. Je crois que chacun d'entre nous, nous devrions quand même nous discipliner, oui ou non, pour savoir quel est un minimum de temps de qualité. Pour m'approcher cette invitation, quand même, tu te rends compte, tout ce que l'on peut vivre, je m'approche. Pas je vais au temple pour servir par habitude et commencer à regarder les gens du dehors s'ils sont pas plus bénis que moi, que ça commence à m'énerver. Non, Seigneur, je veux m'approcher de toi. J'ai besoin d'obtenir miséricorde. Il faut que je m'installe dans cette paix. Parce que c'est pas, on n'obtient pas miséricorde pour la perdre 10 minutes après. C'est pour ça que la deuxième chose, il est dit obtenir miséricorde et de trouver grâce. On s'installe dans la miséricorde, on s'installe dans la grâce de Dieu. Parce qu'aller à l'église juste pour dire, bon, mais j'ai besoin de guérison, Seigneur guéris-moi, j'ai pas le temps, et je reviendrai quand j'aurai peut-être un peu plus de temps. Non, Seigneur, je veux m'installer dans le pardon, je veux m'installer dans la bonté de Dieu. Vous savez, si vous avez goûté que Dieu est bon, je veux m'installer dans cette grâce. Et y rester. Je veux vivre dans le repos. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais été utiles parce qu'en vérité, ils ne sont jamais rentrés dans le repos. C'est une loi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, obtenir miséricorde, c'est extraordinaire. Et pourtant, ça ne suffit pas. Il faut s'installer dans la grâce de Dieu. La miséricorde, ça veut dire que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Et la grâce, ça veut dire que Dieu nous accorde des faveurs que nous ne méritions pas. Entre autres le salut, qui est la grande, grande, grande grâce. La force d'un chrétien, c'est quoi? C'est quoi la force d'un chrétien? Parce qu'il prie plus fort que les autres? Ah, ce chrétien, qu'est-ce qu'il est fort. Quand il prie fort, c'est ça la force d'un chrétien. Il a plus de décibels que le frère qui est à côté de lui, non. La force d'un chrétien, c'est quand un homme fait confiance à Dieu. Voilà ce qui fait la force. Je suis fort, fort plus que vainqueur, par le sang de Jésus-Christ. J'ai confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ. La force d'un chrétien, c'est il a obtenu miséricorde. Et il reste dans cette miséricorde en obtenant la grâce. Que la grâce et la paix vous soient données. Une grâce continuelle. La grâce, c'est pas juste de temps en temps. Non. Et le troisième point pour lequel il faut vraiment s'approcher de Dieu, c'est pour obtenir le secours. Comment c'est écrit ? Pour être secouru dans nos besoins. Dans notre version, c'est quoi ? Au temps opportun. Au moment opportun. Vous savez, Dieu a un temps pour tout. Nous, on voudrait que son temps corresponde au nôtre. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Hein ? Nous, on voudrait bien que ça soit comme nous, on veut. Seigneur, mais j'ai pas le temps, il te ferait me bénir ce soir. Mais ça marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Dieu a son temps. C'est vrai que ça cadre pas toujours avec le nôtre, mais Dieu a son temps. Dieu, il a un plan très précis. Il y a des œuvres préparées à l'avance. Monsieur Catéco vous en a parlé dimanche. Nous y reviendrons certainement plusieurs fois. Mais son secours, on peut l'attendre dans tous les domaines. Vous entendez, mes frères et sœurs? Dans tous les domaines. Là, on a obtenu miséricorde. On s'installe dans cette miséricorde en s'appropriant la grâce. Et là, Dieu nous secourt. Le travail, la santé, les relations. Les relations humaines, ça fait partie de la vie quand même. Et toute chose, Jésus en parle souvent, toute chose. Bon, donc Dieu souvent, mais Dieu sait ce qu'il fait. Quand Joseph avait été attiré par Dieu pour être son instrument, il est dit que lorsque les temps furent accomplis, jusqu'au temps où devait s'accomplir la promesse, etc. Plusieurs fois on le voit. C'est dans ces moments que nous apprenons en attendant, Seigneur, je m'approche de toi. Je m'installe dans la misère. Vous savez, c'est extraordinaire. Quand Noé était dans l'arche avec sa femme, ses fils et ses belles-filles, est-ce qu'il était dans le repos? Oui. Le jugement allait venir. Enfin, il devait quand même s'attendre à avoir des choses terribles, non? Mais il était dans le repos. D'ailleurs, Noé, ça veut dire repos. Et nous aussi, nous nous installons dans le repos de Dieu, comme nos corps le sont à l'abri de la pluie, s'il pleut à l'extérieur. Nos âmes doivent être dans le repos. Comment ? Par la miséricorde, la grâce et l'assurance que Dieu interviendra au moment opportun. Dieu a un temps. En tous les cas, ce n'est pas lorsque les chrétiens râlent, je ne comprends pas pourquoi Dieu n'a pas encore fait ci. Je ne crois pas que c'est comme ça que Dieu est glorifié. Je crois que Dieu est glorifié quand on lui fait confiance. Est-ce que vous pouvez ce soir dire devant Dieu que vous lui faites confiance? Seigneur, je te fais confiance. Lorsqu'un homme me dit, c'est vrai, Seigneur, j'aimerais que tu me bénisses de suite. Mais ça fait rien, même si j'attends que ton nom soit béni. Amen. Je bénirai l'Éternel le dimanche matin. Comment c'est écrit là? Je bénirai l'Éternel le mardi soir. Ah, non. Je bénirai l'Éternel en tout temps. C'est ça? Seigneur, j'aimerais que tu me bénisses de suite. On peut le dire. Est-ce qu'on a le droit de le dire, ça? Oui, bien sûr. On n'est que des hommes. Mais on peut dire, Seigneur, j'aimerais que tu me bénisses de suite, mais je te fais confiance. Tu me secourras au moment opportun. Alors, je parlais de Joseph. Joseph, on va le lire, on va terminer avec ça. Dans le psaume 105, c'est bien, je ne pensais pas le lire, mais enfin, bon, prenons quelques minutes de plus. Ça vaut, je crois, la peine. Parce que il y a deux pensées qui ressortent dans la vie de Joseph par rapport à cette affaire. Bon, Joseph, psaume 105, verset 16. Je faisais allusion au verset 19, mais on va lire quand même le verset 16, 17, 18 et 19. Et 20. Et 22. Vous y êtes ? Psaume 105, verset 16. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer. Vous voyez, tout ça, ce n'est pas précisé dans la Genèse. Enfin, on s'en doutait. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison. Un esclave qui devient seigneur. Alors, jusqu'au temps, verset 19, jusqu'au temps. Bon, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a le temps de Dieu, au moment opportun. Mais, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 13 ans où Joseph a été dans l'épreuve? quand il est à la prison, qu'est-ce qu'il est écrit ? L'Éternel fut avec Joseph. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Lorsque Dieu attend pour intervenir, ce qui est important, c'est que si nous nous approchons de lui, il sera avec nous. Et c'est beau de voir l'Éternel fut avec Joseph. Mais où il était Joseph ? En prison. L'Éternel fut avec Jérémie. Mais il était où Jérémie ? En prison, dans la citerne. Mes frères et sœurs, faites-lui confiance. Installons-nous dans cette grâce. Installons-nous dans cette miséricorde. Approchons-nous de lui comme Asaph à un moment donné a dû dire, bon, mais c'est bon, ça suffit. C'est pas... Ça suffit. Maintenant, je loue Dieu, c'est bien. Je sers Dieu dans la chorale. Je suis le responsable de la chorale. C'est moi qui compose des cantiques. Mais je vais m'approcher de Dieu. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Tu me recevras dans la gloire. Tu me conduiras par ton conseil. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Enfin, quand vous voyez ce qui se passe une fois qu'il s'approche de Dieu, vous voyez qu'il a obtenu grâce, miséricorde et secours. C'est ce que nous voulons. Nous installer dans cette miséricorde. Vous savez, Dieu, il ne se trompe jamais. Alors, réglons le problème du doute. Réglons le problème de l'invitation. Que l'invitation soit bénie. Dieu veut vous bénir. Si on est là ce soir, c'est pas mon sujet de prédilection, mais quand même qu'on le veuille ou non, c'est que Dieu veut nous bénir. Et vraiment nous bénir. Et parfois on lui dit, Seigneur, bénis-moi, mais Dieu pourrait nous dire, mais écoute, arrête avec tes prières inutiles. D'abord, obtiens miséricorde. Installe-toi dans cette miséricorde en trouvant grâce. Et je m'occupe de tous tes besoins au moment opportun. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen ? Est-ce que ce que j'ai dit, vous croyez que c'est la parole ? Est-ce que ce psaume que Dieu a voulu dans le canon des Écritures est utile pour nous ? Ne soyons pas comme des bêtes, des mulets ou des chevaux sans intelligence. Soyons des enfants de Dieu qui comprendront des invitations merveilleuses. Je m'approche de toi, je vais rentrer à la maison. Tiens, bébé, avant de m'endormir, je sais pas, peut-être vous allez manger un carré de chocolat ou boire une tisane, je ne sais rien. Béni soit Dieu pour les carrés de chocolat et pour les tisanes. Mais je vais m'installer dans cette miséricorde. J'ai peur que quand on passe devant Dieu, il nous fasse ce reproche d'avoir su ce qu'il fallait faire. Ce reproche que Dieu a fait à certains chrétiens, apprenant toujours et n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. J'ai bien peur qu'un jour Dieu le fasse à plusieurs chrétiens. Tu le savais, tu n'as jamais appris. Tu t'es toujours opposé à ces choses. Ne nous opposons pas, mes frères et sœurs, à des invitations aussi bénies. Vous êtes d'accord ? Vous voulez la miséricorde ? Vous pouvez l'avoir. Vous voulez la grâce ? Vous pouvez l'avoir. Le secours ? Vous pouvez l'avoir. Vous devez l'avoir. Il est notre Père, le Seigneur. Il est notre Père. Vous pouvez dire ce soir, oui, Dieu est mon Père. J'ai pris le baptême un jour. J'ai confessé le nom de Jésus. Il est mon Père. Vous pouvez dire que Dieu est votre Père ? Eh bien, si vous pouvez dire que Dieu est votre Père, eh bien, on va lui rendre grâce. Et le remercier pour son aide. Parce que je crois quand même que ces réunions, c'est parce que Dieu est notre aide aussi. Amen. Nous te remercions pour Asaph et pour ce psaume contenu dans les Saintes Écritures qui nous permet de comprendre tous les combats, Seigneur, que nous pouvons avoir même en te servant tous les jours dans ton temple. Nous ne voulons pas réfléchir sur tous ces combats. Nous voulons nous approcher du trône de la grâce, sachant que par ton sang, comme nous l'avons si bien chanté, non pas par les œuvres, mais par ton sang précieux, tu nous accueilles, tel que nous sommes, Seigneur. Et nous te demandons de l'aide, tous, pour vivre les mêmes choses, pour que nous nous enracinions dans cette miséricorde et cette grâce, et que nous y restions. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où bêtement, mais stupidement, nous avons douté, alors que tu es digne de confiance. Pardonne-nous d'avoir douté de toi. Seigneur, merci pour ta patience, merci pour ces moments que nous pouvons passer sous ton regard à prier, à chanter, à partager ta parole et à vivre une véritable communion fraternelle. Donne-nous, Seigneur, de rentrer dans nos maisons avec cette grande assurance par rapport à ton invitation. Vraiment, Seigneur, conduis cette Église par rapport au projet que tu as préparé, par rapport au travail collectif et au travail individuel. Conduis cette assemblée, Seigneur, dans tout ce que tu as préparé, que nous soyons tous baptisés de ton esprit, afin que nous fassions toutes ces choses par bonheur et par conviction. Conduis-nous, Seigneur, pour les prochaines réunions, pour ce jeûne et prière, pour la vente de la maison, pour, Seigneur, l'avenir de cette Église, que nous soyons ce troupeau béni qui pourra accueillir toutes les brebis perdues. Nous te remercions, Seigneur, du fond du cœur, que ta volonté soit faite et que ton nom soit béni. Merci, Seigneur Jésus. Amen.